mende jakoro, elures beti adutuzu.
Bonsoir à tous, Radio Paloma dans la DER d'Hider cette fois pour de bon puisque c'est notre forum habituel hein, qui clôture la saison avec, ben, je crois que c'est les mêmes invités que l'année dernière, avec Valérie Cohou, bonsoir du GIF.
Bonsoir.
Arnaud Fontaine donc de la Fédération Départementale.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Arnaud. Et puis donc on a deux chasseurs, on a Jean-Michel.
Bonsoir à tous les fidèles auditeurs.
Et qui nous donne les nouvelles depuis Audichard, et puis également Jean-Jacques,
hein, oui,
le fidèle, parmi les fidèles. On va peut-être commencer avec vous, messieurs, pour bon, on va commencer par parler de la chasse, hein, avant de peut-être parler des comptages, de la migration. Alors Jean-Michel, ça a été une année, comment on la qualifie cette fois ?
Et pour moi, c'est une année catastrophique. Cela fait 32 ans que je chasse dans le cirque d'Irati, et c'est vrai que c'est la plus mauvaise saison depuis. Alors, beaucoup de questions vont se poser. Les techniciens vont nous répondre peut-être, mais avec mon ami Jean-Jacques, on se pose énormément de questions. Et pourquoi la Paloma ne monte plus dans le cirque d'Irati ?
Oui, alors, vous n'avez pas eu de chance trop non plus avec le temps.
C'est vrai qu'on a eu tous les week-ends où il a plu, il a fait très très mauvais. Nous avons passé une semaine dans le brouillard du lundi 11 au lundi 18. Ensuite, nous avons eu 4 jours de beau temps, mais nous n'avons pas vu une Paloma du fait que dans les Landes, c'était couvert et il pleuvait. Ensuite, la tempête est revenue, la neige est revenue aussi, et puis nous avons terminé aux alentours du 11 novembre avec 20 cm de neige. Voilà. Nous avions toujours un petit espoir début novembre, mais malheureusement...
Dans des conditions climatiques peu favorables.
Cette année affreuse.
Affreuse même. Voilà, et donc Jean-Jacques, c'est le même cas de figure à Incash Plaza.
Oui, c'est pareil, c'est le même secteur, c'est Irati. Moi, ce que je voudrais dire d'abord, c'est qu'on a eu très froid. Parce qu'il a fait une semaine à moins 7, et Jean-Michel, je pensais à toi, il devait faire très bon. Nous, on avait moins 7 à la cabane, et imaginez un petit peu dans l'école. Par contre, on est surpris, bon, il n'y a pas eu de Paloma, on sait qu'elle viendra peut-être de plus en plus difficilement chez nous. Mais j'avais dit, on en parlait tout à l'heure, qu'avec du vent du nord, et Dieu sait s'il y en a eu cette année, avec du nord et en plus du nord-est, comme il y a eu, la Paloma viendrait automatiquement en montagne, prendrait vers le Béarn et la Soule. Or, le premier passage, je crois qu'on a compté 230 000 palombes sur Runissar, avec du vent de nord-est. Donc, c'est très décourageant, et je ne vois pas sincèrement, alors que je ne suis pas d'un caractère très pessimiste, mais je ne vois pas comment elle peut revenir et sur le Béarn et sur la Soule.
Bon, mais on va en parler dans quelques minutes. Je tiens à préciser que s'il y a des auditeurs, on ne va pas en prendre 36, mais s'il y en a un ou deux qui veulent appeler et poser des questions, ils peuvent le faire. Il n'y aura pas de problème. Alors, peut-être parler des comptages. Moi, j'ai des chiffres aussi, bon, des filets. Hein, ils ont fait peau de chagrin, hein, comme on dit. C'est peut-être les chiffres les plus bas qu'ils ont eus, hein, pour avoir fréquenté les filets. Comme on voit notamment nos amis de l'Anne 576.
Bon, c'est catastrophique. On en parlait tout à l'heure. L'Anne, il y a 15-20 ans, c'était 6000 palombes. Hein.
Oui, et puis alors, le reste, n'en parlons pas. Bon, on n'a pas la tirée sur les peines du jeu. Ils en ont pris 25, là, il n'y a pas si longtemps. Voilà, avec des conditions pourtant pas très favorables au niveau du temps. Et puis alors, le comptage, c'est ça qui intéresse beaucoup. Beaucoup, parce qu'on nous appelle souvent à la radio pour nous dire alors, combien l'année est passée sur la côte, etc. Alors, Irati, comptage, Jean-Michel et deux Jean-Michel d'ailleurs. Iriard et Jean-Michel Bornave à côté de nous. Moi, j'ai 26 525.
Oui, exactement. Mais moi, je ne vois que les palombes qui montent dans le cirque d'Irati. Je ne vois pas les palombes qui montent sur le secteur de Betsul et les palombes qui sont comptabilisées, par contre, par les écologistes.
D'accord. Oui, parce que j'ai l'autre chiffre, apparemment, hein, certifié donc de LPO, qu'on avait été voir, nos amis donc, écologistes, qui comptent. Alors, eux, ils ont un angle de vue beaucoup plus important, hein, parce qu'ils en ont 71 864. Hein. Donc vous, c'est commandé par, on le rappelle, la commission syndicale.
Oui.
Et puis, bon, eux, c'est depuis l'année dernière, donc ce poste qui avait été pris par la Ligue protectrice des oiseaux. Donc il y a un petit décalage, mais qui est tout à fait normal. Et par contre, donc, alors, les quatre couloirs, on va tourner la parole, Valérie. Oui. Donc Banca Irunia, Sar et Arnegui. Qu'est-ce que vous en avez tiré cette année donc,
donc en fait, en termes de bilan, c'est vrai qu'on a une année relativement faible sur ces quatre postes. Ce que l'on peut dire, c'est qu'on a eu donc, globalement 1 million d'oiseaux sur les quatre postes donc, durant du mois d'octobre, du 15 au 11 novembre. Les passages, en fait, ils se sont déroulés donc, le 21 octobre et le 26 octobre, donc les deux premiers pics et les deux derniers pics, quoi. Avec un passage sur Urugne à 360 000 oiseaux. Il y a eu aussi un passage sur Serre à 356 000 oiseaux. Et Banca Arnegui, eux deux cumulés, on est à 350 000 oiseaux aussi. Donc c'est vrai que globalement, bon, après Irati, on les a pas. Globalement, il y a eu un tiers sur Urugne, un tiers sur Serre, un tiers sur Banca Arnegui. Effectivement, c'est une année assez médiocre, comme le soulignait monsieur Jean-Michel. Tout à l'heure, en fait, on a eu, depuis le 1er novembre, en fait, que ce soit en plaine ou sur l'école, des conditions météorologiques très défavorables, ce qui n'a pas permis donc, le passage des oiseaux. Puis effectivement, on a de grosses concentrations donc, depuis début novembre pardon, en plaine donc, dans les Landes, dans le Gers, Lot-et-Garonne, Sud-Gironde, de grosses concentrations d'oiseaux qui n'ont pas pu passer. Soit ils faisaient mauvais sur l'école et les oiseaux ne partaient pas. Mmh. Soit effectivement, bien, en plaine aussi, il y a eu du mauvais temps. Il y a eu quelques journées de beau passage sur l'école, mais les oiseaux ils étaient bouchés en bas avec le brouillard. Donc effectivement, en fait, on fera un bilan, je pense, à la fin de l'hivernage pour voir si effectivement l'hiver 2010-2011... Eh bien, on va voir si on comptabilise beaucoup d'oiseaux qui restent en plaine. Ça confirmera peut-être un petit peu le passage en migration sur l'école. Puis voilà, donc c'est vrai que le bilan n'est pas glorieux cette année, quoi, effectivement.
Oui, parce qu'on dit chaque année, donc en règle générale, c'est 2 millions, 2 millions et demi de palomes qui vont en Espagne.
Nous, sur l'école, on ne prétend pas tout compter, parce qu'en fait, notre protocole il est basé sur 4 postes. Où on prend les comptages du 15 octobre au 11 novembre chaque année. Donc en fait, en gros, bon, on fait un comptage, certes, mais on raisonne sur de l'indice migratoire. Donc nous, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'école, sur ces quatre postes, en moyenne, on a 1,8 million d'oiseaux qui passent. Mmh. Donc bien sûr, on ne prétend pas tout compter. Et ensuite, donc, viennent les comptages en hivernage, donc en péninsule ibérique, où là, on comptabilise entre 4,5 millions d'oiseaux qui restent là-bas. Donc effectivement, nous, on ne les compte pas tous. Je pense qu'on peut souligner aussi, peut-être cette année, un passage donc, en Pyrénées-Orientales. Effectivement, il n'y a pas de comptages qui sont réalisés par des observateurs assidus. Donc on va essayer de mettre ça en place peut-être dans les années à venir pour voir si les oiseaux ne passent pas non plus par là-bas. Bon, il y a des observations, certes, mais il n'y a pas de réel comptage pour valider les données, quoi.
D'accord, on va peut-être donner la parole à Arnaud. Alors Arnaud, on va parler de ce palombe, parce qu'il y a beaucoup de gens, même ici autour de la table, qui se posent des questions. Alors ce palombe n'est pas passé cette année, est-ce qu'il y a des explications? Alors le temps, la nourriture?
Alors effectivement, la palombe trouve depuis de nombreuses années maintenant un avantage particulier à pas forcément traverser les Pyrénées. Bon, il faut savoir qu'elle a une ressource alimentaire qui est très importante, que ce soit par le développement de la maïsiculture, mais par le fait aussi qu'il y a une certaine déprise agricole qui fait qu'aujourd'hui il y a une ressource alimentaire dans les bois qu'elle n'avait certes pas il y a une cinquantaine d'années. Il n'y a pas beaucoup de monde qui mettent des cochons aujourd'hui à pacager dans les bois, donc la palombe trouve ça aussi sa ressource alimentaire. Bon, la condition principale de la migration de l'oiseau, c'est bien la recherche de ressources alimentaires. Donc si elle le trouve sans avoir fait des efforts, il n'y a pas de raison à ce qu'elle migre, quoi. Bon, après, il faut aussi séparer, je crois, ce qui est structurel de ce qui est conjoncturel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on constate effectivement depuis une dizaine d'années qu'il y a une transformation de la migration, accélérée depuis une dizaine d'années. Une transformation depuis une trentaine d'années, c'est clair, puisqu'il y a déjà 10 ans, on avait abandonné le comptage sur Irati au niveau du GIF, parce qu'on sentait quand même qu'il y avait un glissement de la migration vers l'ouest de la chaîne. Bon, ça c'est un fait, c'est comme ça, la migration se transforme. Après, on est sur une année catastrophique, n'ayons pas peur des termes, qui fait suite malheureusement à une année qui n'était pas très bonne non plus l'année dernière, mais là ce sont sans doute aussi des conditions météorologiques qui font ça, puisqu'en 2000, je crois que c'était 2005, on en a parlé tout à l'heure, on avait des conditions météorologiques qui ont été tout à fait favorables pour la migration, et on a eu une bonne migration en Pyrénées-Atlantiques. Donc j'ai quand même espoir qu'on retrouve quand même des mouvements migratoires d'oiseaux relativement convenables. Par contre, je ne garantirai pas qu'elles remonteront dans le cirque d'Irati. Ça, c'est une autre paire de
manches. Malheureusement.
Par contre, je voulais juste me profiter de l'antenne pour apporter un petit rectificatif, effectivement, par rapport au comptage. Donc, je cautionne et je soutiens tout à fait les comptages officiels qui sont réalisés par le GIF, pour preuve que la fédération est quand même partie prenante financièrement dans le GIF, hein, puisque le GIF est une émanation des fédérations régionales d'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Et malheureusement, il est paru dans la presse, il y a quelques jours, un article où Arnaud Fontaine a lancé 1 600 000 oiseaux de passé. Donc, c'était un malentendu avec le journaliste. Bien sûr, il n'y a pas eu 1 600 000 oiseaux de passé. La fédération n'a aucun intérêt à truquer les chiffres. Au contraire, elle a mis en place des études scientifiques, c'est bien vraiment pour étudier la migration et pour faire en sorte qu'on puisse continuer à chasser pendant longtemps ces oiseaux qui nous sont chers.
Alors justement, on a eu un chasseur de l'Oron qui, lui, avance, c'est Georges, je ne sais pas si vous voyez lequel c'est, Georges qui doit nous écouter et qui nous disait il n'y a pas si longtemps, pour lui, bon, la population diminue, alors est-ce qu'on peut en débattre là?
Moi, personnellement, je ne pense pas qu'elle diminue, parce qu'il n'y a que voir, il n'y a que traverser la France. Donc les retraités, on a le temps, prendre la voiture et traverser la France, il y a des palombes partout. Et comme le disait tout à l'heure Valérie, il y a qu'à aller se balader dans les Landes, l'autre Garonne, le sud Gironde et compagnie, il y en a partout, et pas seulement là, en Sologne. Donc il y a autant d'oiseaux. Le seul problème, c'est qu'elle migre peut-être moins, et certainement moins, et qu'en plus, elle ne prend pas les couloirs dits traditionnels. Et se dirige donc sur la côte. Mais les 1 million qui sont passés, grosso modo, seraient passés dans le Béarn et dans la Soule, on aurait dit qu'il y avait une grosse migration. Quoi, hein. Le problème, c'est que nous, on n'en voit pas du tout. C'est pas 26 000 palombes, c'est ceux qui passaient il y a 10 ans, hein, ou il y a 20 ans en une heure de temps. Les 26 000 palombes, on ne les a pas vus sur Montlion aussi. Autrefois, les gens avaient la tête en l'air ou le nez vers le ciel. Sur le marché de Montléon, cette année, on pouvait avoir le nez vers le ciel. Il y avait absolument rien, quoi. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y en ait moins. Il y en a peut-être davantage, mais elles migrent moins, ça, c'est clair.
Donc, moi aussi, je vais rajouter par rapport à la tendance d'évolution, puisque nous, l'objectif aussi, c'est de voir la tendance d'évolution des populations donc, qui migrent. Et donc, depuis 1999, où l'on fait donc, ces recensements sur les 4 postes, on a une tendance à la stabilité. Elle n'est pas à la baisse, certes, ni à la hausse, donc elle a la stabilité en intégrant même la dernière saison. Donc ça, c'est un fait. Et puis après, je pense que ce qu'il faut retenir par rapport à cette migration, c'est que l'oiseau s'adapte énormément. On va la démontrer, donc nous, avec les balises Argos, on le démontre actuellement, où les oiseaux, on constate qu'ils ne migrent pas chaque année. Il y en a un qui est resté en Suisse tout l'hiver et tout l'été suivant, donc il a commencé sa migration que cet automne au bout d'un an et demi. On a des oiseaux qui sont restés en Pologne et en Allemagne et qui n'ont pas migré. Donc voilà, donc l'oiseau ne migre pas forcément chaque année. Il s'adapte aussi par rapport à l'évolution aussi climatique et par rapport à tout ça.
Là, tu nous parlais de gros sauts, Anissa.
Voilà, donc c'est ça, tous les oiseaux dont on a équipé en fait. Et puis on a des oiseaux aussi qui sont parce que autrefois, on est resté sur la théorie des courts et des longs migrants. Et là, on a constaté, donc, en faisant du suivi vraiment individuel d'oiseaux, parce que bon, c'était que des observations, on disait, voilà, il y a des courts et des moyens migrants, parce qu'il y en a qui s'arrêtent dans le sud-ouest de la France, d'autres qui partent au fin fond du Portugal. Et en fait, donc, on a un oiseau, donc, qu'on a équipé, donc, qui s'appelle Grosso, qu'on a équipé au Portugal, qui est parti, donc, il a entamé sa migration, il est parti jusqu'en Pologne. L'hiver d'après, il est revenu, donc, il est resté en Dordogne. Donc là, il n'y a même pas la fidélité par rapport au site d'hivernage, quoi. Après, il est reparti en Pologne. Pas très très loin de son premier site de nidification, mais pas au même site, donc il n'est même pas fidèle non plus à son site de nidification. Et actuellement, il se trouve en Lot-et-Garonne. Donc c'est même pas. Il est coincé actuellement en Lot-et-Garonne, donc ça reflète aussi la migration de cette année, où on a deux oiseaux qui ont entamé la migration, donc celui de la Suisse qui était resté un an et demi et qui se trouve encore dans les Landes. Donc depuis une dizaine de jours, ils sont coincés, ces oiseaux, alors qu'ils avaient entamé leur migration. Donc là, ça reflète quand même aussi. Ce qu'on a observé cette année sur les postes, où on voit vraiment que les oiseaux sont bloqués. Donc peut-être que ces oiseaux y resteront. Hein. Donc Anissa, elle avait été équipée au Portugal, elle est restée un an et demi en Suisse, elle se trouve dans les Landes aussi. Donc voilà, donc les oiseaux ils s'adaptent, je pense, aux conditions météo.
Et surtout la ressource alimentaire.
Et la ressource alimentaire. Et c'est vrai que pour ajouter par rapport à tout à l'heure, la ressource alimentaire, donc les oiseaux ils sont bloqués en plaine cette année. Et de plus, il y a une bonne glandée cette année en plaine. Donc ça ne va pas faire partir les oiseaux parce que les oiseaux, les palombes, en tout, elles sont au gland avant le maïs quand même. Donc c'est vrai que la variable maïs, elle y est chaque année. On sait que depuis 20, 30, 40 ans, il y a du maïs en plaine. Voilà. Mais les oiseaux, là, ils seront attirés par les glands. Et si le temps continue à être comme ça, à mon avis, ils resteront en hivernage au niveau des glands. Quoi.
On a un monsieur Verdet aussi qui est avec nous.
Oui, bonsoir.
Bonsoir
à tout le monde.
Expert donc en palombe, on va dire.
Expert palombe.
On va lui demander, lui, comment il a vécu cette saison 2010. Bonsoir.
Écoutez, moi j'écoute avec beaucoup d'intérêt ce que vous venez de dire, particulièrement ce qu'a dit Valérie. Je pense qu'elle a résumé parfaitement la situation de cette saison. Bon, il y a eu la conjonction de plusieurs facteurs, si vous voulez. Une météo particulièrement mauvaise, une énorme glandée dans tout le sud-ouest, voilà. Et les oiseaux, comme elle le dit très justement, qui sont très, très opportunistes, se sont arrêtés dans le garde-manger idéal, voilà. Donc il ne faut pas chercher plus loin, je pense, les raisons du mauvais chiffre du passage dans l'école. Bon là, je pense que c'est finalement une saison qui s'explique très très facilement. Il y a eu un très très mauvais temps, il y a eu un beau passage. Bon, il n'y a pas que les comptages du GIF qui sont intéressants. Vous prenez les comptages du journal Sud-Ouest, qui ont quand même, bon, qui n'ont rien de scientifique, certes, mais enfin, qui sont faits avec sérieux par des palomaires. Ils sont très très révélateurs. Vous avez eu un très beau passage qui s'est fait sur le couloir central au niveau de la Dordogne, c'est-à-dire un axe Périgueux-Bergerac qui descend après à la frontière entre Gironde et Lot-et-Garonne et qui rentre sur les Landes. Bon, il y a eu une saison assez exceptionnelle au point de vue passage. Donc le passage n'a pas été mauvais, mais les palombes se sont bloquées. Bon, alors après, où je nuance, moi, c'est-à-dire que la migration ne se déplace pas. Il y a des gens, des chasseurs qui ont tendance à dire « Oui, mais elle passe plus chez nous parce qu'elle passe à gauche ou elle passe à droite. » Alors là, c'est complètement faux. Moi, je peux en parler en connaissance de cause, puisque j'ai ma palombière dans la haute vallée de la Dordogne, où il ne passe rigoureusement plus rien, alors que dans les années 80, 90 encore, il passait 200 000 palombes. Mais maintenant, quand je vois 50 vols dans une saison, je suis vraiment heureux. Voilà. Donc, même au niveau des Pyrénées, on ne peut pas dire que la migration s'est décalée vers la côte, comme on le dit un peu trop facilement, au détriment d'Irati. Bon, pour preuve, derrière Ardigui, il y a le col d'Ibagneta, bon, qui est un des postes les plus célèbres de tir au vol. Ce n'est pas depuis quelques années seulement que les palombes passent à Arnegui. Elles passaient avant d'aller à Ibagneta. Donc, ils n'en passent plus à Irati et ils en passent toujours autant côté ouest, peut-être un petit peu plus. Mais enfin, on ne peut pas dire qu'il y a eu un décalage. Quant au Roussillon, au Languedoc-Roussillon, dont on parlait tout à l'heure aussi, bon, c'est vrai qu'il passe beaucoup de palombes là-bas, mais aussi ce n'est pas une nouveauté. Hein. La chasse de la palombe sur le littoral oudois, dans l'Hérault, dans les Cévennes, ou dans la montagne noire, on ne découvre rien, hein, elles y sont toujours passées, et elles y passent plus ou moins en fonction des vents. Quand il fait un bon vent du nord, tramontane, etc., ou Mistral, il passe beaucoup de palombes là-bas. Il en est beaucoup passé l'année dernière, il en est passé apparemment cette année autant. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de comptage fait par les fédérations de chasseurs, mais il y a beaucoup de comptages qui sont réalisés par des organismes plus ou moins écolos. Et bon, on constate que la migration de 2010 a été aussi excellente. Elle a démarré un petit peu plus tard, avec une dizaine de jours de retard, parce qu'il y avait du mauvais temps, du vent marin, comme ils disent là-bas, c'est-à-dire du vent qui vient de la mer, donc qui bloque le passage. Mais après, il y a eu un excellent passage comparable à celui de l'année dernière. Donc je pense que c'est pas l'homme qui a franchi la frontière pour la plupart. Bon, on va les retrouver en hivernage en Espagne. Voilà. Donc, l'un dans l'autre, si je puis dire, la migration a été un peu particulière en fonction de la météo, mais de là à dire qu'il y a moins de palombes, non. Tous les chiffres fournis par tous les organismes scientifiques européens disent que la population de palombes est stable, peut-être même en hausse. Bon, en revanche, les palombes ne migrent plus pareil et elles sont extrêmement opportunistes. Voilà.
Jean-Jacques, tu voulais rebondir peut-être ?
Oui, bonjour Pierre Verdet.
Bonjour.
Bon, juste un truc quand même, je suis d'accord qu'il y a autant de palombes ou plus peut-être. Mais cette année, il en est passé beaucoup moins quand même. Mm-hmm. Les palombes qui ont traversé les Pyrénées, il n'y a qu'un million au comptage.
Ah oui, oui. Ah, même ça, je suis d'accord, mais c'est la météo qui a tout bloqué.
Tout à fait.
Et alors, il y a un autre problème, mais dont on parlera peut-être après.
Oui, mais ce qui nous inquiète à nous ici, les gens de Soule et du Béarn, c'est que, bon, elle passe à Arnégui, d'accord, il en passait il y a 50 ans, mais il en passait beaucoup plus sur le site d'Irati et sur la montagne sous le Tine, et notamment le Béarn. Aujourd'hui, on voit rien. Jean-Michel disait 26 000 palombes, mais c'est ce qui passait quand vous étiez venu il y a 20 ans nous voir, et c'est ce qui passait en une heure le matin à Irati.
Mais c'est bien ce que j'ai dit. Il ne passe pas plus de palombes côté occidental, à l'ouest. En revanche, il ne passe plus rien sur ce couloir d'Irati. Alors, si on veut développer un peu sur ce thème-là, si vous prenez tout le couloir qui descend, vous voyez, bon, mais la vallée de la Dordogne, l'est du Lot-et-Garonne, le Gers, ce couloir est très très peu alimenté. Prenez le Gers. Le Gers, avant la fin du mois d'octobre, il ne voit pratiquement plus de palombes au passage, comme on dit, c'est-à-dire des palombes en migration. Dans le Gers, ils commencent à chasser la palombe vraiment quand les palombes s'installent sur les sites d'hivernage, c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Tout ce couloir est tari, vous voyez. Et ce couloir-là, vous prenez une carte, tirez un trait...
Non, c'était le couloir qui a amené la palombe chez nous.
Et voilà. Bon, vous avez des choses qui sont très simples. Puis il y a des chiffres quand même qui datent d'assez longtemps. Il y a un poste de comptage qui existe depuis au moins 50 ans, qui est situé dans le Massif central, au pied du plomb du Cantal, dans un petit col qui s'appelle Prat de Bouc. Bon, Prat de Bouc, dans les années 1970-1980, il recensait, bon an, mal an, 250 000, 300 000 palombes au passage. Maintenant, ils ont moins de 2000 palombes. Bon, vous voyez, il ne passe strictement plus rien. Et ce couloir, encore une fois, tracer un trait entre le Cantal et Irati, vous allez vous rendre compte que c'était une ligne de passage extrêmement fournie, qui alimentait derrière la haute vallée de la Dordogne, Lot-et-Garonne, Gers et tout ça. Vous prenez toute la région du Fumélois en Lot-et-Garonne, vous voyez, Villeneuve-sur-Lot, tout ça, il ne passe quasiment plus rien. Alors qu'à l'inverse, encore à l'ouest, si vous voulez, du côté de Duras, toutes ces régions-là, là, il passe encore beaucoup de palombes. Alors, on peut penser quand même que ces oiseaux qui ont un instinct extrêmement grégaire, c'est-à-dire qui se regroupent, hein, bon, se regroupent sur le passage traditionnel le plus classique, voilà. Et après, elles descendent et elles viennent buter sur les Pyrénées. S'il fait beau temps, elles passent. S'il fait pas beau, elles ne passent pas. Mais de toute façon, elles passeront maintenant toujours plus à l'ouest, c'est-à-dire dans l'axe un peu du couloir central qui arrive, que à l'est de la chaîne vers Irati. Alors je pense qu'il faut quand même... Pardon, excusez-moi, je termine. Ouais. Il faut simplement, je pense, rajouter aussi un autre problème. C'est que en plus de la glandée exceptionnelle, du mauvais temps, vous rajoutez toutes les réserves qui sont installées dans les Landes.
Les réservoirs.
Les réserves. Moi, je n'appelle même pas ça des réserves, j'appelle ça des pièges à palombes. Hein? C'est-à-dire des réserves qui permettent de garder des palombes pendant tout l'hiver, en hivernage. Je ne veux pas polémiquer, mais enfin, il faut appeler un chat. En Sologne, on appelle ça des pièges. Hein? C'est-à-dire que vous agrainez des champs, vous laissez des cultures sur pied, vous ne chassez pas les palombes pendant 3 mois, et puis après, à partir du mois de décembre, feu à volonté. Alors, moi, bon, je veux bien tout ce qu'on veut, mais qu'est-ce qui se passe dans les Landes? On chasse sur les cultures ou en bordure des cultures jusqu'à la fin du mois de février, nos chers palombes. Pourquoi on fait ces fameuses réserves? Je vais vous prendre un cas précis. Le premier passage, alors vraiment le début du passage, hein, qui s'est fait autour du 10, hein, avant que le GIF soit en place, le 10, 11, 12, 13, 14. Hein, il y a eu une très très belle vague. Vous prenez les comptages de sud-ouest à Précignac, en Dordogne, au soir du 14, le compteur devait être déjà plus de 20 000 palombes passées. Alors 20 000 palombes, entendons-nous bien, passées au-dessus de sa cabane chassable, hein, c'est pas comme dans un col. Hein, voilà. Donc c'était déjà plus de la moitié d'un très gros passage pour lui. Bon, ce passage-là, les chasseurs du Piémont pyrénéen, et j'en compte quelques-uns parmi mes meilleurs amis, ils ne l'ont jamais vu. Ces palombes qui passaient chez nous en Dordogne à des hauteurs absolument incroyables, à 500 mètres, arrivaient au-dessus des Landes et au-dessus des fameuses réserves, ces réserves qui étaient déjà, qui s'alimentaient en ballon un peu chaque jour, servaient d'appôt, si vous voulez, faisaient appôt sur ces vols, et tous ces vols descendaient, moi j'ai des témoignages des chasseurs du côté de Capcieux, dans des coins comme ça, ils voyaient toutes ces palombes qui arrivaient, qui s'amassaient, et derrière, des chasseurs placés au sud de l'Adour, cette migration de 16 jours, ils ne l'ont jamais vue. Ils ont vu 4 ou 5 petits vols. Voilà. Donc c'est la preuve la plus formelle que ces réserves servent de véritables pièges. Voilà.
Oui, on en parlait en antenne tout à l'heure. C'est vrai que si on supprimait les réserves au mois d'octobre, quitte à les ouvrir au mois... Mais là, je rêve un peu, là. quitte à les ouvrir au mois de... le 11 novembre ou après la Toussaint, peut-être que la migration reprendrait sur son cours normal.
Je pense qu'il y en aurait un peu plus, oui.
Mais je ne sais pas si on doit aller à Lourdes ou à Rome pour ça, mais ça m'étonnerait qu'on puisse le faire.
Il y a des gens qui décident, il y a des gens qui laissent faire. C'est pas moi, hein.
Tu voulais réagir, Arnaud ?
Oui, je rebondirai un petit peu là-dessus, effectivement. Bonjour. Bonjour, monsieur Verdet, excusez-moi. Je suis tout à fait aussi pénalisé que la majorité, la totalité des chasseurs du département, parce que je suis moi-même chasseur de palombes. Mais la problématique des réserves landaises, c'est que c'est un dispositif qui rentre tout à fait dans le cadre légal, puisque la Fédération des Landes, le département des Landes, est un département qui est exclusivement classé en ACCA. Donc être en ACCA, ça signifie qu'il faut avoir 10% de son territoire qui soit classé en réserve de chasse et de faune sauvage. Il faut savoir que dans ces réservoirs, dans ces zones de réservoirs à palombes, 99,9% du territoire de chaque commune est un biotope extraordinaire, qui font en moyenne entre 6 et 10 000 hectares. Donc vous mettez une réserve 10%, ça fait des réserves de 600 à 1000 hectares d'un biotope fantastique pour les palombes, en toute légalité, puisqu'en plus le législateur avait bien marqué dans le texte de loi que ces réserves de chasse et de faune sauvage doivent être accueillantes pour la vie faune migratrice. Donc dans le 64, nous allons aller à Lourdes et à Rome, mais je ne pense pas qu'on aura un grand changement.
Non mais là je suis entièrement d'accord sur ce principe. Le problème, c'est que vous devez savoir comme moi qu'il y a quand même des réserves également qui sont temporaires, c'est-à-dire qui ne sont mises en place que pour des périodes réduites, c'est-à-dire qui ne fonctionnent pas pendant toute l'année, toute la saison.
Donc ça sera notre problème effectivement à débattre peut-être au niveau de la région cynégétique, mais je ne suis pas convaincu que le président de la Fédération des Landes ait le même avis que le président de la Fédération des Pyrénées-Atlantiques, voilà. Mais on pourra débattre.
Ni que le mien, ça j'en suis sûr, mais je suis sûr aussi que quand même beaucoup de chasseurs se posent des questions, et bon je vois cette année, c'était d'ailleurs extrêmement intéressant et révélateur sur le site palombes.com, bon, que tout le monde consulte, il y a eu quand même un grand débat qui s'est lancé là-dessus, et toute une polémique qui est née, et puis à juste titre. Bon, écoutez, tous les chasseurs un peu anciens du Piémont pyrénéen ont quand même vu cette modification. Alors, des ACCA dans les Landes, c'est pas d'hier qu'il y en a quand même, je pense.
Non, ça c'est sûr, mais bon, après, il faut savoir aussi que le comportement d'un animal ne se change pas d'une année sur l'autre. Les ACCA, c'est quelque chose, la maïsiculture, toute cette modernité, c'est quelque chose qui est arrivé après la Seconde Guerre mondiale, en gros, dans les années 50.
Oui,
et je pense qu'effectivement, les oiseaux ont mis une trentaine, quarantaine d'années
pour
comprendre et pour être opportuniste et pouvoir saisir au mieux, finalement, toutes ces modifications qui lui sont favorables. Au-dessus.
Non, mais ça, je suis bien d'accord. Mais moi, les modifications naturelles ou agricoles, j'accepte parfaitement. Enfin, je pense que ça arrange beaucoup de monde que les palombes restent en hivernage, pour employer un peu un euphémisme, qu'elles restent en hivernage jusqu'à la fin du mois de février, qu'il y en ait des quantités qui se concentrent dans certaines régions, où on les vend, notamment jusqu'à la fin de la saison. Voilà.
Oui,
pour parler clair.
Oui, tout à fait. Tout le monde en est conscient, au moins ici. Eux aussi, je pense, qu'ils en sont conscients.
J'espère.
Disons que oui, chasse à la palombe du 15 octobre à fin février ou à la,
voilà, la fin penser. Du mois de février. Alors la chasse traditionnelle.
Et non, la chasse 15 jours et en.
La chasse traditionnelle, elle a vraiment bon dos, moi je trouve. Parce que sous le couvert de chasse traditionnelle, on déforme maintenant des chasses qui durent toute l'année. Et excusez-moi, mais chasser la palombe avec des appôts jusqu'à la fin du mois de février, moi je trouve ça tout à fait anormal. Mais bon, ça aussi, ça fait partie. Il y a des gens qui font des règles, qui fixent des règles. Comme le principe aussi qu'on puisse chasser avec des appalandes dans 80 départements français ou 83, je ne pense pas que ça fasse plaisir à tout le monde non plus. Mais bon, ça a été fait comme ça. Hein. C'est pas moi qui ai pris la décision.
Les chasser avec les appalandes et faire baisser les palombes pour le tirer à la volée ?
Aussi, mais il y a également on chasse la palombe partout avec des appelants maintenant, quasiment en France. Bon, voilà, c'est des décisions qui ont été prises il y a quelques années. Et maintenant, je pense que tous les palomailleurs traditionnels du Sud-Ouest ne sont peut-être pas d'accord avec ça aussi. Voilà. Ouais. Mais bon, il faut savoir un peu évoluer. Bon, on va pas, il faut pas rester figé comme ça, dire oh là là, c'est fini, la migration, ça va pas. Il faut essayer des fois de se poser quelques questions, de dire tiens, on pourrait peut-être améliorer certaines choses. Enfin, moi, je le vois comme ça en tout cas.
Oui, ça va être difficile quand même.
Mais je suis un empêcheur de tourner en rond, bien connu.
Je sais pas, Valérie, peut-être ça, tous les.
Non, mais moi, juste pour assurer peut-être les chasseurs, c'est que depuis 1999, on observe donc au comptage au col un cycle tous les 4 ans. Donc on a une mauvaise année cette année, une mauvaise année l'an passé, une bonne année en 2008. Donc on va dire, on va espérer une bonne année en 2011. Voilà.
C'est ce que souhaite la commission syndicale de Soul aussi. Voilà.
Non, mais ça c'est sûr, il y a des cycles, il y a des mauvaises années, il y a des bonnes années, mais sur le principe, si vous voulez, des réserves qui freinent et qui stoppent la migration, phénomène qui a été accentué cette année, je l'ai dit en préambule, par le mauvais temps et par une glandée exceptionnelle, c'est sûr que ça complique encore les choses pour les chasseurs du Piémont pyrénéen, ça c'est une évidence rare.
Voilà. Peut-être qu'il faut prendre exemple sur les Landais, peut-être aussi dans les Pyrénées-Atlantiques, pourquoi pas faire des réserves favorables à la vie faune migratrice.
Dans les Pyrénées-Atlantiques.
Dans les Pyrénées-Atlantiques.
Oui, mais il faudrait que les palombes arrivent dans les Pyrénées-Atlantiques pour qu'elles puissent rentrer dans des réserves. Valérie, si vous les gardez chez vous dans les Landes, elles ne sont encore pas dans les Pyrénées-Atlantiques.
C'est pas les miennes. Elles appartiennent à tout le monde.
On peut essayer de les faire à Rue, autrement.
Ouais.
Et à Biarritz.
Bon, ben merci beaucoup, Monsieur Verdet. Je voulais peut-être.
Donc juste Monsieur Verlet, bonsoir, c'est Jean-Michel.
Bonsoir.
Chasse à Irati.
Bonsoir.
Juste deux petits mots de réflexion. J'ai deux amis de la Drôme qui chassent avec moi. Ils viennent passer 10-12 jours. Mm-hmm. Et un autre qui habite Perpignan, mm-hmm. et qui vient passer 10 jours. Et cette année, surtout le couloir ordanien, ils ont vu des palombes passer très tôt, fin septembre.
Oui, aussi.
Et beaucoup plus que les autres années. Mm-hmm. Et ensuite, le passage s'est arrêté vers le 25, et mon collègue de Perpignan aussi, qui a vu beaucoup de palombes sur Béziers, tout ça. Mmh. Et alors, il se demande qu'est-ce qu'ils viennent faire dans les Pyrénées, alors qu'ils passent les palombes chez eux. Voilà, tout oui, ça pour vrai. Vous dire qu'ils ont vu beaucoup de palombes cette année, plus que les autres années.
Il y a eu un gros passage d'ailleurs autour du 19, 20, 21, ils ont eu un passage exceptionnel, mais il paraît assez haut aussi, mais ils ont vu beaucoup de palombes. J'ai aussi un ami là, qui chasse du côté de l'étang de Berre, et il me disait, bon, ils en ont vu autant que la saison passée, qui avait été exceptionnelle, voilà.
Juste une question, d'ailleurs j'ai posé cette question il y a quelques jours ici. Est-ce que vous, en chassant, vous avez vu beaucoup d'oiseaux, de petits oiseaux et pas de palombes, hein?
Non, très peu, très peu de pinsons, bon les grives, n'en parlons pas, mais il y a eu quelques beaux passages de grives, je crois, le long de la côte, là sur le littoral, le littoral aquitaine, assez tôt, assez précoce, parce qu'il y a eu un coup de froid assez précoce, à la fin du mois de septembre, il y a eu des beaux passages de grives, mais après, petits oiseaux, pinsons, alouettes, alors là, moi, personnellement, je n'ai quasiment rien vu. Mais bon, ça c'est aussi, ça varie toujours en fonction des vents, des couloirs, on ne peut pas avoir d'avis comme ça, formel, en regardant juste le sud de sa tête, là, je ne m'aventurerai pas.
Il n'y en a pas eu ici non plus, je crois que personne n'en a vu.
Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit exactement la même chose que vous.
C'est quand même un peu inquiétant.
Dans l'est de la France, nous on est content quand même, l'est vers le Jura et tout ça, bon, là-bas ils parlent de beaucoup de grues, de pinsons, de grives.
Mais oui, mais il faut dire que ce mauvais temps, il était partout, hein. il a bloqué les oiseaux plus haut, puisque la semaine dernière encore, il y avait 75 000 grues autour du lac du Der, Haute-Marne. Donc 75 000 grues encore au lac du Der à la fin pratiquement du mois de novembre, ça fait beaucoup. Donc c'est les oiseaux qui ont été bloqués par le mauvais temps aussi.
Ils ont dû arriver aujourd'hui ici parce qu'il y en avait énormément.
Hein. Oui, voilà, ça a commencé, oui, depuis 3-4 jours, on en voit beaucoup. Alors, est-ce qu'avec le coucou de froid qui est annoncé là sur l'Europe de l'Ouest, là, sur l'Est de la France, il va arriver beaucoup d'oiseaux migrateurs encore. Je ne parle pas de palombes, parce que les palombes, c'est un petit peu installé. Bon, maintenant, on ne va plus voir que des mouvements erratiques un petit peu partout. Hein. Mais pour les grives et le reste, on va voir.
Ok, merci beaucoup Monsieur Verdet.
Je vous en prie.
Et à très bientôt. Bon, très bientôt, en général merci. C'est tous les ans, mais bon, on fera peut-être un effort cette année. Merci pour votre participation, à très bientôt.
Au revoir à tout le monde.
Merci. Ouais. Au revoir. Oui, on a, je crois, bien compris Monsieur Verdet, n'est-ce pas, hein? Il a été clair aussi, apparemment vous chez un peu de la tête à côté, Arlon.
Oui, bon, il y a effectivement des... beaucoup de choses qui sont dites qui sont vraies, mais qui seront très difficiles à faire changer. Bon, je crois malgré tout, puisque Monsieur Verdet trouve qu'effectivement on n'a pas une baisse des populations et qu'on n'est pas forcément un transfert des couloirs migratoires ou une augmentation sur les couloirs les plus à l'ouest. Bon, où sont passés ces oiseaux, quoi. Donc je pense qu'effectivement, chose aussi qui est nouvelle par rapport à il y a 40 ou 50 ans, il n'y avait pas d'hivernage pratiquement en France. Aujourd'hui, le contingent d'oiseaux migrateurs qui passait peut-être par Irati, aujourd'hui, ils restent effectivement dans les Landes, ils ne migrent plus, quoi, tout simplement. Et encore, on ne dénombre l'hiver que ce qui est en Aquitaine ou même Midi-Pyrénées. Et on ne compte pas, et je pense que ça méritera peut-être aussi pas un chef des fédérations du Nord qui ont eu la chance d'avoir la légalisation de la chasse aux appelants, dont les intéresser un petit peu plus à cet oiseau, non pas comme un gibier de potence, mais vraiment comme une ressource cynégétique importante, et voir avec eux aussi s'il n'y a pas des hivernages importants qui se développent dans ces zones de plaine du centre et du Nord et de l'Est de la France.
Oui. On a peut-être quelqu'un en ligne, non? Oui, alors c'est Georges, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ah,
oui.
Excuse-moi Georges, apparemment, j'ai pas bien saisi tes propos la dernière fois, quand on parlait un instant justement de population. Alors,
ouais, oui.
Fais-nous un rappel, rapidement.
Oui, mais moi j'écoute le débat, on est dans une espèce de consensus, quoi, tout le monde s'exprime là, autour de la table, bon, c'est très sympathique, même fin... moi, je pense qu'il y a un gros problème au niveau de la population des palombes. Bon, il y en a qui vont me dire, mais ce gars-là, il déboque. Mais moi, je pense que je suis dans la vérité. J'ai lu beaucoup d'ouvrages, etc. Bon, discuté avec pas mal de personnes qui ne sont pas chasseurs, mais qui étudient les oiseaux. Et que, bon, il y a par rapport à il y a 30 ans, il y a une chute spectaculaire du nombre de palombes. En hivernage en Espagne et au Portugal et qui franchissent les Pyrénées.
Oui, c'est ça que tu voulais nous dire. Réaction de la mission, oui.
Qu'il y ait moins d'oiseaux migrants, je veux dire, on le conteste pas, je veux dire, effectivement, puisqu'on se rend compte que nos couloirs sont beaucoup moins irrigués qu'il y a 30 ou 40 ans. Ça, c'est un fait. Par contre, ce que constatent les comptages, tant au niveau du GIF, au niveau transpyrénéen, que sur les comptages au niveau des dortoirs en péninsule ibérique, c'est qu'on a une stabilité de ces 10 dernières années. Donc effectivement, peut-être que par rapport à 40 ans, il y a moins d'oiseaux. Aujourd'hui, on est arrivé à quand même quelque chose de relativement stable, même si les deux dernières années sont un petit peu peut-être anachroniques. On verra si ça se poursuit. Moi, ce qui me rassure quand même, c'est qu'on dit que globalement, en Europe de l'Est, les populations de palombes sont stables, voire en légère augmentation. Mais ce qui me rassure, c'est que c'est pas les chasseurs qui le disent, puisque le responsable de la LPO est intervenu sur cette antenne il y a quelques jours, et que lui-même a reconnu qu'il y avait une augmentation régulière de 1 à 2% des populations de palombes au niveau de l'Europe de l'Ouest. Pas forcément des migrantes. Et par contre, c'est les migrantes qui nous intéressent.
Oui, tout à fait d'accord, c'est exact, c'est ce qu'ils ont affirmé, mais il faut savoir quand même que ces palombes, dont la population augmente, les chiffres sont là, c'est vrai, ne subissent absolument pas la même pression de chasse que subit la grande migratrice. La grande migratrice, elle subit une pression de chasse qui est très forte en France, en Espagne et au Portugal. Et le problème, c'est que tant que ces trois pays ne se mettront pas autour d'une table pour discuter de la gestion sur le long terme de la population des grandes migratrices, je pense qu'on restera au niveau où on est. C'est-à-dire qu'il y aura des saisons à peu près correctes, passables, mais il y aura de plus en plus de mauvaises saisons de chasse. Les couloirs centraux ne sont plus alimentés parce qu'il n'y a plus suffisamment d'oiseaux. Et le problème, c'est qu'on tourne sans arrêt autour du pot et qu'on ne pose pas le vrai problème sur la table et dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire pour les décennies à venir concernant la gestion de la palombe grande migratrice? C'est la question qu'il faut se poser. Les palombes qui ne franchissent, les années où les comptages ne sont pas bons, ça fait 2 années où on a un comptage qui est relativement modeste, qui n'est pas très bon. On devrait retrouver le stock de palombes qui n'a pas franchi les Pyrénées en hivernage en Aquitaine. On ne retrouve pas le stock de palombes manquant en hivernage, du moins sur ces 2 dernières années. Il y a un gros souci à ce niveau-là. Alors, c'est paradoxal. Il est vrai que les palombes sédentaires, globalement, en Europe de l'Ouest, se portent bien,
Mais la grande migratrice, elle, elle se porte mal, parce que la pression de chasse sur cet oiseau est beaucoup trop forte. La chasse en hivernage provoque des dégâts très importants sur cette palombe lorsqu'elle hiverne en Aquitaine et en Espagne et au Portugal. Les quotas de chasse sont beaucoup trop forts et elle est trop chassée. Ouais. Ça, c'est mon point de vue, mais c'est pas, ce n'est pas que le mien. Moi, je suis chasseur. Il y a beaucoup d'ornithologues qui disent exactement la même chose.
Valérie ? Moi, ce que je voudrais rajouter par rapport à vos propos, c'est que nous, au niveau du GIF, là aussi, on fait également des comptages en migration en plaine, mais au nord de la zone d'hivernage, justement pour voir les oiseaux qui entrent en migration dans la région. Donc ces oiseaux, soit ils vont hiverner, soit ils vont continuer la migration.
Oui.
Et depuis 1980, en fait, ça fait plus de 22 ans qu'on fait ces comptages. Ce que l'on peut dire, c'est que la tendance d'évolution, elle est très stable, très très stable. Donc ce qui veut dire que on ne parle plus là de grandes, de courtes, de moyennes migratrices, mais au contraire d'oiseaux qui s'adaptent. Donc en fait, il y a des oiseaux qui entament la migration, et en fonction des conditions météo sur les cols, de la ressource alimentaire en plaine, mais ces oiseaux ils vont décider soit de rester, soit de partir migrer au Portugal ou en Espagne. Après, par rapport au stock d'hivernants, et par rapport, donc, on dit qu'il y a de plus en plus d'oiseaux sur l'Europe. Donc il faut bien distinguer les oiseaux sédentaires, qui effectivement sur toute l'Europe sont en très forte augmentation.
Oui.
Il y a jusqu'à plus de 10% dans certains pays au nord de l'Europe. En France aussi. Donc il y a une dizaine d'années, on ne voyait pas de sédentaires en Aquitaine. Il y a 5-6 ans, dans les Pyrénées-Atlantiques, ça a commencé à se sédentariser aussi. Donc c'est peut-être des oiseaux qui s'adaptent, qui étaient migrateurs avant et qui deviennent sédentaires, ça on ne le sait pas encore, mais pourquoi pas, on peut tout imaginer. Et après par rapport aux réseaux d'hivernage, effectivement il y a des oiseaux, donc nous depuis 1999 également on fait des comptages en hivernage, et depuis ces années-là, depuis 10 ans, la tendance d'évolution elle est relativement stable, voire à la hausse, en Aquitaine, Midi-Pyrénées, mais ce n'est pas une très forte hausse non plus, donc voilà. Et ensuite, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a entamé également des comptages en hivernage dans les autres régions de France, notamment Poitou-Charentes, la région centre, et cette année va adhérer donc à notre programme de recensement en hivernage, la région Limousin. Donc là, c'est vrai qu'on aura une plus grande vision de l'hivernage en France, parce que ce sont des régions où il y a 15 ans, il n'y avait pas d'hivernage. Et effectivement, les oiseaux ils s'adaptent, les conditions météo sont favorables pour eux et ils vont peut-être rester hivernés dans ces régions maintenant. Donc voilà, c'est des oiseaux qui s'adaptent énormément. De là à dire que nous, depuis 10 ans, dans l'école, on observe donc sur 4 postes. Effectivement, depuis 30 ans, il y avait une chute des effectifs sur Irati. C'est pour ça qu'on avait mis en place les 4 autres postes. Depuis 10 ans, on voit que la situation n'est pas catastrophique comme le pensent certains. Hein. Mais je pense tout simplement que les oiseaux ils s'adaptent. Et en fonction de ça, c'est sûr, il y a des couloirs qui sont beaucoup moins fréquentés que d'autres. Mais bon, je ne pense pas que la situation ou la population des migrateurs, on va dire entre parenthèses, soit catastrophique.
Je peux vous répondre ?
Oui, bien sûr.
Oui. Ce que vous dites est très intéressant, mais vous ne m'avez pas convaincu. Moi, je pense que la palombe qui va hiverner en Espagne ou au Portugal, elle subit une pression de chasse qui est trop forte. Moi, je maintiendrai ça. Si on levait un peu cette pression de chasse, c'est-à-dire mettre en place des quotas, etc., un plan de gestion international, même entre la France, l'Espagne et le Portugal, c'est pas impossible. Mais enfin, je sais que c'est difficile, très difficile à mettre en place, évolution des mentalités, etc., c'est très complexe. Je sais, mais il faut penser au long terme. Je pense qu'il y aurait possibilité de remonter les effectifs. Ça pourrait remonter relativement vite.
Donc,
je ne dis pas que tous les couloirs seront alimentés, mais je pense qu'on verra sans doute, si les effectifs remontent dans les décennies à venir, plus régulièrement au cours des mois d'octobre, le couloir d'Irati se réalimenter. À l'heure actuelle, il y a à peu près un passage, comme vous l'avez dit, tous les 3 ou 4 ans. C'est catastrophique. Moi, je le dis tout net. Je ne pense pas que les chasseurs vont continuer à monter tous les ans pour espérer d'avoir un hypothétique passage. Mais si on fait un effort sur le stock de la Transpyrénéenne actuelle, je pense qu'il y aurait possibilité de voir passer un peu plus de palombes sur les grands couloirs, je dis bien séculaires. Ça fait des siècles que la palombe passait sur ces couloirs-là. Les pantières sont en train de s'effondrer. La chasse au filet va mal. tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de palombes. Il y a toujours de la palombe qui passe, mais en plus petite quantité qu'autrefois, et il devient très difficile de pouvoir chasser cette palombe sur tous les couloirs où sont situées les panthères. Je le répète, ce sont des couloirs où la palombe passait depuis des siècles.
Ouais, donc juste pour vous répondre donc à votre première interrogation par rapport au partenariat, on va dire, avec l'Espagne et le Portugal.
Oui.
Donc nous, au niveau du GIF, initialement, on travaillait en collaboration étroite avec les Espagnols et le Portugais. Oui. Et on continue toujours cette association. Donc on a mis en place également des comptages en hivernage chez eux. Et il faut savoir qu'au Portugal, sur les grosses zones dortoirs donc de la palombe, ça a été mis en place depuis 2 ans, des zones de réserve également. Donc ils ont adhéré donc au principe de ce qui se fait donc par chez nous. Et pour y être allé à plusieurs reprises au Portugal, les oiseaux, quand ils sont dans ces zones, la pression de chasse, honnêtement, je pense pas que ces oiseaux soient trop. Donc après, c'est un peu jeter la balle aux voisins aussi, je pense.
Non, pas du tout. Hein. Non.
Non, mais bon, après,
pour
y être allé, c'est vrai que
c'est... Ce sont mes amis, les chasseurs espagnols et portugais. J'ai aucun problème de ce côté-là. Je dis qu'on devrait déjà peut-être commencer à balayer devant notre porte au niveau de la chasse en Aquitaine. Moi, je pense qu'à la chasse en Aquitaine, on devrait mettre des quotas pour la chasse en hivernage, parce qu'il y en a qui abusent, qui vendent les palombes, tout le monde le sait. La législation est très difficile à contrôler, parce que la garderie a beaucoup de difficultés. Elle est en sous. Parfois, de façon.
Oui, mais elle y revient quand même. Donc, c'est si c'était vraiment la pression. Bon, moi, je suis d'accord en partie, mais pas surtout. La pression de la chasse, c'est sûr. Mais c'est pas la pression en Aquitaine. Hein. Il a chasse en Alsace, la palombe, avec des pylônes. Donc, la pression de la chasse, c'est sûr que ça y fait. On a fait, il y a 30 ans, de l'anarchie sur la chasse à la palombe, où derrière une fougère, on mettait un gars qui tirait. Bon, aujourd'hui, ça s'est un peu calmé. Alors, c'est sûr que la palombe évite aujourd'hui de prendre, dès qu'elle voit une colline, elle assimile ça un coup de fusil. Et c'est peut-être l'explication pour la faire partir vers la côte. Mais je ne pense pas que la pression de la chasse suffise, parce qu'il n'y a qu'à aller dans les Landes, où elle est massacrée, comme vous dites, on est à peu près d'accord là-dessus, mais elle y revient quand même, donc elle ne part pas. Donc je ne suis pas sûr que la pression de la chasse fasse tout. La pression de la chasse, elle peut s'expliquer pour les couloirs de montagnes comme Irati, Arnegui, où il en passe de moins en moins, parce qu'il y a 15 ans, on ne parlait que d'Arnegui.
Oui.
Et aujourd'hui, ça se décale. Oui, oui. Alors, la pression de la chasse dans les Pyrénées Atlantiques, et notamment vers le piémont pyrénéen,
oui.
Là, je suis d'accord.
Oui.
Mais la palombe, elle va continuer à passer. Elle passe sur la mer, elle passe à Andaï. C'est pas ça qui va diminuer la palombe qui migre, je ne pense pas.
Je veux dire, la pression de chasse, elle ne s'applique pas uniquement pendant le passage, elle s'applique également pendant l'hivernage. Une palombe, elle part du jour J, et ensuite elle fait toute sa traversée pendant laquelle elle est chassée, et ensuite pendant la période d'hivernage, elle est ensuite chassée pendant toute la période d'hivernage, et ensuite elle remonte. Bon, à la remontée, il y a eu un effort de fait, on a réduit la période de chasse, et ensuite elle se reproduit, et ensuite elle recommence le voyage. Elle est chassée au moment où elle part en migration, et pendant toute la durée de l'hivernage.
On est d'accord,
en Aquitaine, ouais. Et puis ensuite en Espagne ou au Portugal. Mais quand je veux dire pression de chasse, je veux dire le nombre de palombes tuées. Hein. Les chiffres, ils sont quand même très importants. Très, très importants. Alors, on va pas l'éradiquer. Non, la palombe va continuer à passer, il va continuer à y avoir du passage. Alors, c'est vrai qu'elle se décale, etc. Mais je veux dire qu'on pourrait faire un effort pour remonter l'effectif. On pourrait le faire. On peut le faire. Mais c'est un énorme travail. Il y a eu un professeur du Muséum d'Histoire Naturelle qui avait été interrogé il y a quelques années justement concernant la palombe transpyrénéenne. Et lui a dit, si on considère que la pression de chasse est très forte sur cette espèce, alors il dit non, on ne fera pas disparaître la palombe transpyrénéenne. Elle continuera de fraîchir, mais on la maintiendra par le biais d'une pression de chasse trop forte, c'est-à-dire des prélèvements trop forts, on la maintiendra à un niveau très bas. Et après, il ne faudra pas s'étonner si certains couloirs traditionnels seront plus ou moins asséchés. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Bon, si je peux me permettre de rebondir, donc effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes dans vos propos. Malgré tout, il faut pas croire que en supprimant la pression de chasse pendant 2 ans, qu'on multipliera par 2, par 4 ou par 8 les effectifs de palombes migrantes, parce qu'il y a une autre caractéristique importante, c'est qu'à un moment donné, ces oiseaux qui vont revenir sur leur lieu de nidification, il faut qu'ils trouvent des zones favorables pour nidifier, pour se reproduire. Et il n'y a pas forcément la capacité d'avoir des zones totalement favorables pour faire reproduire et pour faire nourrir en multipliant par 4 ou par 8 les populations d'oiseaux. Ça, c'est le premier point. Après, deuxième point, la préoccupation, effectivement, de la pression de chasse. Bon, je crois qu'au moins dans les Pyrénées-Atlantiques, ça a été intégré depuis quelques années, puisque même des mesures ont été prises pour limiter la chasse au niveau des palombes hivernantes. Bon, il faut savoir que le législateur nous a interdit de chasser les chasses de retour, et c'est peut-être finalement une bonne chose. On a quand même au niveau des Pyrénées-Atlantiques mis en place l'interdiction de la commercialisation de la palombe à partir du 1er décembre, l'interdiction du tir à la grenée, du tir au sol à partir du, je crois que c'est du 20 novembre, excusez-moi, j'ai plus exactement les chiffres en tête. Donc certaines mesures ont été prises. On a notamment certains cantons qui ont interdit le tir au vol de la palombe pendant la période d'hivernage, parce qu'on se rendait compte que sur les zones où il y avait l'hivernage, il y avait des gens qui venaient aussi pour une chasse commerciale, pour louer des terrains pour pouvoir faire de la chasse commerciale à ce moment-là. Donc des mesures sont prises. Au moins en Pyrénées-Atlantiques, on a déjà intégré la difficulté de gérer cette ressource. Bon, il faudra peut-être le faire comprendre à certains de nos voisins, mais je peux vous garantir que ça sera quand même compliqué de se donner et de se porter en donneur de leçons quand on sait ce qu'a coûté rapporter la chasse en Pyrénées-Atlantiques pendant quelques décennies.
On est bien d'accord. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. C'est le gros problème. Faire évoluer les mentalités, pouvoir discuter avec tout le monde, ça sera très très compliqué. C'est un sujet qui est brûlant.
Bon, merci Georges alors.
Oui, merci à tout le monde.
Merci de ton intervention.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Ouais, à bientôt, au revoir.
Bien, au revoir.
Et je crois qu'on a un auditeur qui veut poser une question. Il y a Thierry avec nous là. Est-ce qu'il est toujours là? Non, il n'a pas pu patienter. Bon, tant pis. Alors, moi je vous propose de clôturer peut-être l'émission. Il y aura toujours la palombe, si j'ai bien compris. Il y aura toujours les chasseurs, en gros. Ouais. Ah, Jean-Michel.
Il y a un grand blanc là.
Jean-Michel, il fait les signes.
Moi je me compare un petit peu à un capitaine d'une équipe de rugby qui sont dans la spirale de la défaite et qui remonte toute la semaine le moral à ses troupes. Et c'est pas facile, je peux vous dire que c'est pas facile par les temps qui courent. Exemple, cette année j'avais 5 nouveaux dans l'équipe. Qu'est-ce que je vais quand je vais faire ma réunion annuelle, qu'est-ce que je vais leur dire? Vous êtes mal tombés, est-ce qu'ils vont repartir l'année prochaine? Et je suis très pessimiste pour les 2012, pour les adjudications. Je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes qui vont stopper leur activité, la chasse.
Alors Jean-Jacques, on m'a posé une question ce matin à propos d'un coin que tu affectionnes particulièrement, Saint-Engrasse, où malheureusement, là-bas, les chasseurs, c'est zone désertée, apparemment. Je sais pas, tu en avais parlé apparemment il y a quelques temps.
Oui, on en a parlé, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, avec Pierre Verdet. C'est vrai que Saint-Engrasse était à... Lorsqu'il y avait énormément de palombes sur Irati et sur la montagne sous le Tine, c'est vrai que Saint-Engrasse était un peu arrosé. C'était un peu les côtés du gros couloir. Aujourd'hui, comme le couloir central, parlons d'Irati, c'est rarifié, il n'y a plus de passage, c'est clair qu'à côté, lorsqu'il y a 20 vols qui passent à Irati, il doit en passer un à Saint-Engrasse, et encore, je ne suis pas sûr. Donc, je regrette beaucoup pour mes amis de Saint-Engrasse. Je les adore, je les aime beaucoup, mais s'il n'y a pas de palombe, c'est pas ma faute, quoi. Hein.
Non, ça c'est sûr. Voilà, donc il y aura Radio Palombe l'année prochaine, hein, certainement.
Oui, bien sûr. D'accord.
On sera là.
Et on va se poser des questions.
Merci beaucoup Valérie, Arnaud, Jean-Michel, Jean-Jacques.
Merci à vous.
Et à l'année prochaine. Alors.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.